Le financement des uniformes.
Le financement de l'habillement des troupes a principalement évolué au fil des âges, suivant le mode de recrutement des armées. On peut à ce sujet distinguer plusieurs époques. La première remonte aux anciennes formations, période pendant laquelle les rois n'avaient aucune dépense à faire pour l'habillement des hommes appelés à marcher à l'armée. La suivante renferme le long intervalle pendant lequel les soldats s'entretenaient au moyen de leurs soldes. Par la suite, on substitua à ce mode de financement divers systèmes d'administration avec l'établissement des masses. Avant la création d'une armée de métiers dépendant de la couronne, l'habillement des hommes destinés à servir sous les armes n'était pas à la charge de l'État, mais à celle des seigneurs auxquels les souverains avaient concédé des fiefs. Outre l'hommage et le serment de fidélité, les bénéficiaires de ces libéralités s'engageaient d'accomplir certains droits et devoirs auxquels on les astreignit et dont le principal fut de continuer à servir le roi dans ses armées. Ainsi, suivant les bénéfices produits par ses fiefs, le roi exigeait de ses seigneurs féodaux un certain nombre d'hommes habillés et équipés. Avec la publication du ban et de l'arrière-ban, qui déterminaient les lieux de réunion, le roi n'avait aucune dépense à faire pour l'entretien de ses soldats. La création des compagnies d'ordonnance par Charles VII en 1449 qui sont à l'origine d'une armée de métier, c'est-à-dire une armée maintenue et entretenue en temps de paix comme en temps de guerre, ne changea rien au financement de l'habillement qui demeurait à la solde de chaque officier et soldat. Cette étude a pour objet de résumer les différentes méthodes de financement qui ont été utilisées pour acheter, entretenir les uniformes et le matériel entrant dans l'équipement et le harnachement des soldats et cavaliers depuis Louis XVI jusqu'au début du Premier Empire. Ce dossier comporte 6 chapitres. Premier chapitre, les premiers budgets consacrés sous le règne de Louis XIV. Deuxième chapitre, les méthodes de financement sous Louis XV. Troisième chapitre, les méthodes de financement sous Louis XVI. Quatrième chapitre, le choix des ministres sous la Convention nationale. Cinquième chapitre, le choix des ministres sous le Directoire. Sixième chapitre, le choix des ministres sous le Consulat.
Premier chapitre. Les premiers budgets consacrés sous le règne de Louis XIV.
François Le Tellier, marquis de Louvois, fut chargé par Louis XIV de la direction du département de la guerre en 1662. Il obtint par survivance cette charge de son père Michel Le Tellier dès l'âge de 14 ans. Ce dernier, secrétaire d'État à la guerre, patient et laborieux autant que modeste et discret, avait acquis sous l'autorité du cardinal Mazarin une grande connaissance des armées. Il connaissait sa force, mais aussi les maux qui la rongeaient. Ce grand serviteur de l'État eut l'intelligence d'instruire et de former à cette fonction ses fils, dont François, dit Louvois. D'une probité et d'une loyauté exemplaires, Louvois allait consacrer son énergie à extirper tous les abus qui se pratiquaient dans les armées en organisant un contrôle sévère à l'égard des officiers. Il brisa la résistance de ceux qui ne se croyaient pas tenus à l'obéissance. Il les obligea à résider auprès de leurs troupes, de choisir, comme il le disait, entre la profession de courtisan et celle d'officier. Il préféra les riches officiers à ceux qui n'avaient que leur titre, car à cette époque où le budget de la guerre était presque nul, il fallait qu'un capitaine ou un colonel puisse subvenir aux besoins de sa troupe. C'est précisément toutes ces qualités qui lui valurent tant d'ennemis. Sous le règne de Louis XIV, l'armée n'était ni permanente ni régulière et les corps appartenaient toujours à leur chef, au capitaine, la compagnie et, au colonel, le régiment. Lorsque Louvois prit ses fonctions de secrétaire d'État à la guerre, l'armée était dans un état qui laissait fort à désirer. À l'exception de quelques corps, l'indiscipline régnait en maître, la hiérarchie des grades était confuse ou méconnue, les rivalités aristocratiques y produisaient de grands désordres. L'autorité du roi restait marginale, ses ordonnances ne servaient qu'à fixer l'effectif de ses unités, leur armement et la paix. Les directives du secrétaire d'État étaient le plus souvent ignorées. L'œuvre de ce grand ministre fut de mettre l'armée dans les mains du roi. Dès son entrée en fonction, Louvois, par une série d'ordonnances et de règlements, s'appliqua à détruire les prétentions des arrogants, à briser les récalcitrants et à lutter contre la corruption qui avait fini par s'imposer comme un moyen ordinaire d'enrichissement. L'un des maux qui était à l'origine de cette déliquescence fut le maintien de la vénalité des charges. Lorsque les capitaines et les colonels avaient obtenu leur commission, ils devaient, dans un premier temps, recruter eux-mêmes les hommes qui allaient former la compagnie et le régiment. Ils étaient chargés ensuite de les équiper, les armer, les habiller, ils devaient également acheter et entretenir les chevaux. Le roi ne fournissant que la solde, ces commissions devenaient, entre les mains de ceux qui en étaient nantis, de véritables titres de propriété. Afin de rentrer dans leurs fonds et de tirer profit de cet achat, ces officiers, qui avaient payé cher leur brevet, de 8 000 à 12 000 livres pour un capitaine, de 15 000 à 22 000 livres pour un colonel, allaient se livrer à toutes sortes de profits illicites. Cette concussion s'effectuait aussi bien à l'encontre de la couronne que de la troupe. Au premier rang des moyens coupables qu'employaient les officiers pour grossir leurs bourses aux dépens de l'État, il y avait l'industrie des passes volants. La manœuvre consistait à n'entretenir volontairement qu'un nombre d'hommes inférieur à l'effectif fixé par ordonnance. Les soldats ou cavaliers manquants étaient remplacés, les jours de montre, c'est ainsi qu'on appelait la revue, par des valets ou des vagabonds recrutés pour la circonstance ou bien encore par des soldats obligement prêtés pour un jour par un capitaine ami. Ces faux soldats ou passe-volants comblaient les lacunes pour le temps de la revue et s'évanouissaient le soir même. Ainsi, grâce à cette astuce, les capitaines recevaient, d'une part, de substantielles gratifications pour avoir une compagnie au complet et empochaient, d'autre part, la solde des soldats manquants. Cette disproportion entre l'effectif supposé d'après les contrôles et l'effectif réel pouvait avoir des conséquences fâcheuses lorsqu'il fallait, les jours de bataille, aligner un certain nombre d'hommes pour faire face à l'ennemi, mais cela devenait une aubaine pour les capitaines sans scrupules. Ainsi, le lendemain de la bataille, les fameux absents devenaient des morts imaginaires et avec ces victimes de guerre fantômes, l'officier pouvait revendiquer la belle conduite de ses troupes et recevoir d'importantes gratifications pour réparer les pertes. Les maîtres de camp ou colonels dans leur régiment, les capitaines dans leur compagnie trafiquaient les charges de lieutenants et de bas officiers qu'ils vendaient à leur gré. Il n'était pas rare de retrouver ces officiers malfaisants à Paris, sans y être autorisés, dissipés au jeu et en folle débauche l'argent destiné aux soldats. Pour justifier cet abus de confiance, ces malfaisants trouvaient ensuite 1000 raisons pour ne payer aux hommes qu'une partie de la solde ou pour ne pas la payer du tout. C'est ce que révèle une ordonnance du 7 février 1661 dans laquelle, le roi, apprenant que certains capitaines d'infanterie, sous prétexte que les fonds ne sont pas toujours arrivés à temps pour le paiement, avancent 3 sols aux soldats de leur compagnie sur les 5 alloués et ne leur tiennent aucun compte du reste quand le paiement de la solde leur est fait. Le préjudice était grand. Les soldats floués, mal vêtus, mal équipés, mal armés et surtout mal nourris n'avaient de ressources pour vivre que le pillage, le vol ou la désertion. Louis XIV ordonna au capitaine de payer exactement à chaque soldat les 5 sols par jour sans leur retrancher ni retenir autre chose que les avances qu'ils leur ont faites. Les commissaires des guerres étaient chargés de cette surveillance, mais elle était très superficielle quand elle n'était pas tout simplement illusoire. La connivence était le plus souvent la règle, car les violences des officiers prévaricateurs à l'encontre des commissaires n'étaient pas rares. Avant Louvois, la solde n'était ni fixe ni régulièrement payée. Elle variait quelquefois d'une armée à une autre, d'un régiment à un autre, même d'une compagnie à une autre. Les arriérés étaient souvent considérables, de là, 1000 plaintes et 1000 désordres de la part des officiers et des soldats. Avec l'ordonnance du 20 décembre 1663, Louvois rendit la solde invariable et les paiements réguliers. La solde était alors calculée à la journée. Elle fut fixée au taux suivant. Astérisque pour l'infanterie, le capitaine touchait par mois 76 livres, le lieutenant 30, l'enseigne 22 livres 10 sols. Les 2 sergents recevaient par jour chacun 10 sols, les 3 caporaux chacun 7 sols, les 5 en spessade chacun 6 sols et chaque soldat 5 sols. Astérisque pour la cavalerie, le capitaine 180 livres par mois, le lieutenant 90 livres, le cornet 2 livres 5 sols par jour, le maréchal des logis 1 livre 10 sols, chaque cavalier 15 sols. Une fois la compagnie formée et la revue passée, le capitaine recevait tous les mois la solde de ses soldats. Elle leur était versée tous les 10 jours sous forme de prêt. Avec cette somme, correspondant à un tiers de leur solde, chaque homme devait s'entretenir et se nourrir. Les enrôlements étant faits pour une courte durée, pour 1 ou 2 campagnes, il n'y avait pas lieu de se préoccuper de l'habillement proprement dit du soldat, juste au corps, chausses et chapeau, parce que l'homme, une fois enrôlé, continuait à porter son habillement personnel, la tenue uniforme n'étant pas encore établie. Cependant, les chemises, les bas et les souliers suaient pendant que l'homme était au service, et il devait les remplacer. En temps de guerre, le soldat pouvait pourvoir facilement à cet entretien, grâce au butin et à la maraude, mais, en temps de paix, ses ressources extraordinaires lui faisaient défaut. Il en était réduit à prélever sur sa solde journalière l'argent nécessaire pour remplacer ses effets usés. Le prêt pour un fantassin était de 50 sols, or une paire de souliers, par exemple, coûtait alors 3 livres astérisques, soit 60 sols. Le soldat ne pouvait, avec cette somme, vivre pendant ce temps et acheter les souliers qui lui étaient nécessaires. Il n'avait alors d'autre moyen que celui d'obtenir de son capitaine une avance, dont le montant lui était retenu ensuite sur sa solde à raison d'un sol par jour ou plus selon les conventions faites. Bientôt, tous les soldats des compagnies se trouvèrent en compte avec leur capitaine. Telle fut l'origine de la masse individuelle. Les premiers effets uniformes furent prescrits par les colonels de quelques formations après la paix signée entre les couronnes de France et d'Espagne en novembre 1659. Cet usage s'établit graduellement par la seule volonté des colonels et des capitaines qui voulaient donner à leur unité le panache qui correspondait à leur rang. Rien n'était déterminé, et les couleurs, la coupe du vêtement, les galons, dépendaient uniquement des goûts de chaque chef. Par esprit d'imitation, les autres suivirent peu à peu. Ce que Louvois n'aurait pu obtenir par ordonnance, la vanité et l'amour propre des officiers l'imposèrent.
Secrétaire d'État de la guerre, Michel Le Tellier de Louvois.
Après avoir rendu la solde régulière, Louvois a voulu supprimer les abus liés à la retenue sur solde que pratiquaient tous les capitaines. Avec un prêt versé tous les 10 jours, ce procédé s'était naturellement imposé, mais il faisait l'objet d'innombrables polémiques dans la mesure où sa comptabilité dépendait de la seule appréciation des capitaines. Louis XIV, dans 2 ordonnances datées du 20 avril et 27 juillet 1666, réitéra auprès de ses officiers sa volonté d'interdire cette pratique. Cependant, quelques mois plus tard, il fallut se rendre à l'évidence. La grande majorité des soldats, incapables de gérer leurs prêts, n'étaient plus en mesure d'assurer le renouvellement de leurs effets. L'état vestimentaire des compagnies se dégrada rapidement. Louis XIV, voulant concomitamment supprimer la misère vestimentaire qui s'était installée dans les corps et annihiler tous les abus que ses retenues avaient fait naître, légalisa le procédé. Dans une ordonnance du 5 décembre 1666, il autorisa les capitaines et officiers à retenir 30 sols par mois sur la solde des cavaliers et soldats. Cette retenue ne devait être employée qu'à l'habillement, aux chaussures et objets de remonte des cavaliers. Un décompte trimestriel devait être dressé en présence des commissaires et adressé au roi. Pour obliger les capitaines à faire les décomptes à leurs cavaliers et soldats, le roi, dans une ordonnance du 7 janvier 1669, ordonna que les comptes fussent purgés en présence du commissaire des guerres, chargé de la police du corps, afin que les sommes restendues fussent restituées soit aux capitaines, soit aux soldats. Les écritures de la compagnie étaient alors tenues par un fourrier, qui était un caporal, en spessade ou soldat désigné par le capitaine et n'était pas dispensé de remplir les fonctions de son grade malgré son emploi de comptable. À la suite de cette ordonnance, le fourrier dut ouvrir pour chaque homme un compte présentant les recettes provenant de la retenue et les dépenses faites pour son habillement. La masse individuelle venait ainsi d'être organisée légalement. Dans la pratique, les abus n'avaient pas disparu. Les capitaines, sous prétexte de vieilles dettes, prélevaient sur la solde des soldats des sommes plus importantes que celles qu'il était autorisé à faire. Pour mettre un terme à ces arbitraires, Louis XIV, dans une ordonnance du 20 novembre 1671, prit plusieurs dispositions. L'idée d'un habit uniforme ayant fait son chemin peu à peu dans les armées, il décida tout d'abord de l'imposer dans la cavalerie de sorte que les compagnies soient toujours composées de cavaliers et de dragons vêtus de même façon. Si cette mesure permettait de s'identifier sur le champ de bataille et contribuait à lutter efficacement contre les déserteurs qui étaient immédiatement identifiés, elle uniformisait le prix des effets pour tous les cavaliers. Ainsi, le prix des vêtements et objets à remplacer étant parfaitement connu, on pouvait déterminer précisément le montant à prélever mensuellement sur la solde de chaque cavalier. Cette obligation étant faite, il prescrivit au commissaire des guerres de veiller à l'objectivité des échanges à réaliser en dressant, avec chaque capitaine et soldat, un inventaire des objets et vêtements à renouveler pour le mois de septembre de chaque année. Le mois de mars suivant, le compte était balancé, s'il y avait excédent de recettes ou avoir à la masse, cette somme était remise au soldat, s'il y avait, au contraire, excédent de dépenses ou débets à la masse, le soldat se trouvait redevable envers son capitaine et, d'après les usages, ne pouvait prendre son congé tant qu'il n'avait pas acquitté sa dette. Pour obliger les capitaines à respecter les directives de cette ordonnance, Louvois s'attaqua à leur toute puissance en instaurant des sanctions à leur égard. Ainsi, ceux qui passaient outre ces prescriptions s'exposaient à être privés de leurs charges pendant un mois et à verser aux soldats lésés ces appointements. même s'il n'était pas encore parfaitement défini, l'habit uniforme devenait officiellement la tenue portée dans les armées. Le sol retenu par jour à chaque homme ne produisant que 18 livres par an, cette somme fut bientôt reconnue insuffisante pour pourvoir à l'entretien et au renouvellement des effets. Afin de disposer de la ressource financière indispensable à cette opération, on décida d'assigner à chaque effet une durée de vie. Après divers tâtonnements, on fixa la durée de vie à 2 ans pour le juste au corps, 1 an pour le chapeau et la culotte et 6 mois pour les autres effets. Cependant, la retenue du sol journalier qui représentait 36 livres en 2 ans était toujours insuffisante. Le roi décida, en 1672 ou 1673, que l'extraordinaire des guerres paierait à chaque régiment 18 livres par an et par homme pour l'habillement. Ces 18 livres formèrent la masse d'habillement du corps, tandis que la retenue du sol par jour resta la masse du soldat et fut destinée au renouvellement des objets de linge, de chaussures et aux réparations. Cette disposition subsista jusqu'en 1679, époque à laquelle Louvois a dû mettre un terme au détournement de fonds que les capitaines avaient mis en place grâce aux mesures précédentes. En effet, avec l'apport financier que l'extraordinaire des guerres versait pour l'habillement, ces officiers crurent bon de disposer pour leur profit particulier du sol qu'il était autorisé à retenir sur la solde de leurs soldats. Parut alors l'ordonnance du 15 novembre. Désormais, sur le sol que les capitaines avaient été autorisés à retenir, 8 deniers seraient mis entre les mains du trésorier général pour être employés à l'achat des étoffes entrant dans la confection des uniformes. Le reliquat des sommes ainsi perçues restait à la disposition des capitaines qui devaient le consacrer à l'achat de bas, souliers et linge pour les soldats de sa compagnie. En 1685, le négoce des tissus ayant fait apparaître que le coût du drap gris blanc était le moins élevé, il fut retenu pour habiller l'infanterie française. L'habit devenait de plus en plus uniforme, mais ses détails variaient encore dans chaque régiment lors des renouvellements des effets. L'achat des effets d'habillement se faisait désormais par bataillon et non plus par compagnie. Les capitaines déléguaient l'un d'entre eux pour acheter les étoffes et faire confectionner les effets d'après le modèle arrêté pour le corps. Il s'était établi à Paris, à Lyon et dans d'autres villes importantes, de grands industriels qui se chargeaient de cette confection et de fournir les chapeaux, le linge et les objets d'équipement. La chaussure était faite sur place au moyen de marchés passés avec les cordonniers de la garnison. Tous les marchés, qui stipulaient les époques du paiement, devaient être approuvés par l'inspecteur du corps. Ce dernier était également chargé, lors de la réception des marchandises, de les examiner. Il devait renvoyer celles qui ne correspondaient pas au cahier des charges et, s'il n'y avait aucun refus, il donnait au commis du trésorier, qui avait entre ses mains l'argent des masses, l'autorisation de faire les paiements convenus dans les marchés. Les draps communs, employés pour les vêtements des soldats, étaient fabriqués à l'Odève et aux environs. Cependant, la plupart des régiments étaient en garnison dans les places du Nord et de l'Est, et ces draps leur parvenaient grevés de frais de transport considérables, ce qui augmentait ainsi le prix de l'habillement. De nombreux capitaines, cherchant toujours à diminuer leurs dépenses, achetaient des draps d'Angleterre, des Pays-Bas ou de Hollande qui, malgré les droits de douane, leur revenaient moins chers que ceux de l'Odève. Le transport par eau étant bien moins coûteux. Cependant, ces achats causaient un grave préjudice à l'industrie nationale. Pour la protéger, une ordonnance du 20 octobre 1686 défendit aux capitaines d'employer des produits étrangers pour l'habillement de leur compagnie. Hélas, cette mesure ne fut pas favorable aux soldats, car beaucoup de régiments, pour ne pas obérer leur masse, ne renouvelèrent plus l'habillement tous les 2 ans, mais tous les 3 ou 4 ans. Jusqu'alors, aucune prescription officielle n'avait réglé les détails de l'habillement, les quantités d'étoffes à employer et le prix des effets. Alors parut le règlement du 26 mai 1704 qui fixa tous les détails de l'habillement du soldat d'infanterie. Il était composé d'un juste au corps, d'une veste, d'une culotte, chemise, cravate, bas, chapeau, souliers et ceinturon. Le coût total de cet habillement s'élevait à 51 livres, 5 sols et 7 deniers.